Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est l'heure du journal de la culture d'Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Hélène, l'annulation des festivals de cet été entraîne des millions d'euros de pertes pour certaines régions.
Et oui Philippe, c'est le cas notamment de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur qui organise chaque année 750 festivals dont 20 d'entre eux ont une portée internationale. Certains ont été annulés suite à la crise sanitaire comme le Festival de Cannes, Avignon ou encore les Rencontres d'Arles. Alors selon Renaud Muselier, le président du conseil régional de la région PACA, toutes ces annulations entraînent 400 millions d'euros de pertes et en deux mois de confinement, 5 milliards d'euros du chiffre d'affaires de l'offre culturelle ont été perdus. Il s'est entretenu avec le ministre de la Culture, Franck Riester, cette semaine et avec une trentaine de représentants des plus importants festivals du sud de la France. Alors les 5,2 millions d'euros de subventions destinées uniquement aux festivals seront maintenus. 1,7 million d'euros sera aussi débloqué pour les petits festivals. Un soutien engagé sur 3 ans. Alors ce plan d'urgence devrait être voté une première fois par le Conseil régional le 20 juin. Renaud Muselier est très favorable aussi à une éventuelle alliance entre le Festival de Cannes et celui de Venise, comme cela a été évoqué. Et il souhaite également que les répétitions des spectacles prévus à la fin de l'été ou cet automne puissent reprendre en respectant les règles sanitaires. Renaud Muselier est également le président de l'Association des régions de France. Il demande un accompagnement de l'État et demande au gouvernement une généralisation du chômage partiel au personnel qui n'avait qu'une promesse d'embauche et un prolongement d'un an des droits des intermittents. Franck Riester réunira la semaine prochaine tous les vice-présidents des conseils régionaux en charge de la culture et du patrimoine.
Et puis Hélène, d'un mot, certains festivals annulés continuent de se mobiliser pendant cette épidémie.
Oui, c'est le cas du Hellfest Festival qui se déroule en Loire-Atlantique chaque année. Alors il a été annulé, mais les organisateurs ont décidé de mettre en vente des masques en tissu sur le site internet. 3 pour 15 euros. 10 000 ont été vendus en moins d'une journée. Ils sont donc en rupture de stock. Une commande de 3 300 masques vient d'être passée. Il y a aussi des t-shirts Hellfest qui ont été créés, Hellfest for Hills.
Un collectif de plusieurs personnalités du monde de la culture publie une tribune dans le journal Le Monde, tiens justement.
Monsieur le Président, cet oubli de l'art et de la culture, réparez-le. C'est le titre de cette révolte signée par entre autres Jean Dujardin, Omar Sy, Catherine Deneuve, Léa Seydoux, Pierre Niney, Clara Luciani ou encore Oxmo Puccino. Ils interpellent le Président de la République Emmanuel Macron, le ministre de la Culture Franck Riester ainsi que tout le gouvernement. Les artistes soulignent le manque de précision, de mesure. Ils déclarent, je cite, des je ne sais pas à l'appel, quelques mots sur le théâtre privé, de vagues encouragements. Résultat, nous vivons dans les supputations. Alors, ils souhaitent un plan clair et précis. D'ailleurs, ils demandent à ce qu'Emmanuel Macron l'exige auprès de Franck Riester. Personne ne sait quand les lieux culturels vont pouvoir ouvrir. Ces personnalités rappellent que la culture fait vivre 1,3 million de personnes. Ils demandent également au gouvernement de mesurer leurs responsabilités, de prolonger les droits des intermittents d'une année, au-delà des mois où toute activité aura été impossible. Une mesure souvent réclamée, notamment par le biais de pétitions. Alors, Franck Riester, le ministre de la Culture, a déclaré « Une nouvelle vague de mesures arrive prochainement. Personne ne sera laissé au bord du chemin. La culture est essentielle à nos vies. »
On passe désormais à une belle initiative qui va se dérouler ce week-end, le Biblioton.
Vous connaissez le marathon, Philippe.
Bien sûr.
Le barathon aussi.
Le barathon, oui, c'est Cyril Lacarrière qui m'a fait découvrir.
Voilà, faire 42 barbes, il le fait souvent. Voici le Biblioton, donc, et ça concerne évidemment les livres. Le but, déconfiner la lecture. La youtubeuse Bulldop organise demain 12 heures de direct, de 12h à minuit, sur sa chaîne YouTube, afin de soutenir les libraires. Une initiative soutenue par différentes personnalités, comme Olivia Ruiz, Mathias Malzieu, Fabien Olicard, Anne Silla, Valérie Perrin. Les internautes pourront faire des dons en direct pendant ce live à différentes organisations. Et au programme, surtout pendant ces 12 heures, conseils de lecture, des tables rondes, des interviews d'auteurs, des blind tests, des quiz, des cours de yoga et des conseils pour se lancer en tant qu'auteur. Un live totalement interactif et en plus, Bulldop promet des surprises. Rendez-vous donc sur la chaîne YouTube de Bulldop.
Et maintenant, on passe à la musique avec Gilbert Montagné qui a composé une nouvelle chanson pour soutenir la lutte contre le coronavirus.
Elle s'intitule « Si vous nous aidez », les paroles sont signées Didier Barbelivien. Celles et ceux qui l'interprètent sont médecins, infirmiers, infirmières, tout le personnel soignant des hôpitaux partout en France. Gilbert Montagné a composé cette chanson en une semaine. Didier Barbelivien souhaitait des paroles optimistes. Le but, que l'on entende la voix de ceux qui travaillent. Tous les participants se sont enregistrés avec leur téléphone portable et je vous invite à aller voir le clip qui est sorti hier.
Et on termine ce journal, Hélène, par une mise au point. On parle du groupe Oasis, mise au point signée Liam Gallagher.
Une petite dispute entre les frères Gallagher, ça faisait longtemps,
ah oui,
Philippe.
Ouais.
Eh ben oui, ça nous manquait même. Ouais. Hein. Alors, on en parlait hier, Noël Gallagher a sorti une démo inédite du groupe dans la nuit de mercredi, une démo retrouvée en faisant du rangement. Elle s'appelle Don't Stop. Sauf que Liam, son frère, apparemment n'était pas au courant et surtout pas forcément d'accord. Il a tweeté « Hey Tofu Boy » puisque Noël est devenu végétarien. Si tu dois sortir une vieille démo, assure-toi que je sois dessus et que Bonhead, le guitariste du groupe, y joue de la guitare. Sinon, alors, je vous le dis, je cite ce que Liam a tweeté, ça ne vaut pas plus qu'une branlette. Voilà, fin de citation. Alors, je suis désolée, je vous l'avoue, je ne voulais pas dire cette phrase, mais je cite,
mais
c'est Liam qui l'a tweeté,
mais
donc je m'excuse auprès des auditeurs et de mes parents.
Mais
surtout.
Oui, mais l'info avant tout, messieurs et madame Manarino, l'info avant tout. Merci beaucoup Hélène pour ce professionnalisme. Bon week-end à vous. Dans un instant,
bon
on va recevoir le comédien François Berléand, mais d'abord, je voudrais saluer la disparition hier d'un immense musicien. C'est le batteur Tony Allen. Dans les années 70, il a inventé l'afrobeat avec le chanteur Fela, mais c'est lui qui tenait les baguettes, évidemment. Brian Eno, producteur David Bowie, a salué, je cite, « peut-être le plus grand batteur qu'il y ait eu sur Terre. Il était nigérian, il est mort à Paris à 79 ans. » Et on va entendre maintenant, lui, Tony Allen, avec une merveille. C'est la ritournelle de Sébastien Tellier qui est devenue un tube planétaire. Et c'est lui qu'on entend aux baguettes, ce style de Tony Allen qui n'est pas pour rien dans le succès de ce tube, à la fois velouté et incisif. Sébastien Tellier, la ritournelle, Tony Allen à la batterie sur Europe 1. parler sur cette merveille, c'est sacrilège, mais le morceau fait 9 minutes 30, réécoutez-le. Je suis un petit peu ému pour tout vous dire, j'ai un peu les larmes aux yeux. Savoir que Tony Allen ne jouera plus jamais de la batterie comme ça en live, en tout cas devant nous. C'était Sébastien Tellier, Larry Tournel sur Europe 1 avec Tony Allen à la batterie.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour François Berléand, je me remets, bonjour François.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, confinement oblige, vous n'êtes plus sur scène. Comment se passe le confinement pour vous?
Écoutez, ça se passe. Je suis parti, j'étais au théâtre, on a arrêté le théâtre le vendredi, et nos voisins nous ont invités gentiment dans le Lot,
ouais.
Qui est devenu rouge depuis hier.
Ah non, mais j'ai vu ça, c'est le seul département rouge au milieu d'un océan de vert et d'orange.
Oui, oui. Alors, écoutez, d'après les informations qu'on a eues du directeur de l'hôpital, c'est qu'il y a eu 7 cas, non pas de coronavirus, parce qu'on ne sait pas si c'est le Covid ou pas, c'est des gens qui ont eu de la fièvre.
Ouais.
Et 7 cas d'un coup, on est obligé de le mettre en rouge au département parce que c'est trop par rapport à la moyenne.
Voilà.
Voilà. Mais on ne sait pas s'ils ont été diagnostiqués ou pas.
Bon, alors, je vais expliquer ça pour rassurer les habitants du Lot, c'est que la couleur est déterminée, un, par le nombre de cas, mais aussi le nombre de places en réanimation. Alors, François Berléand...
De nouveaux cas.
François Berléand, on va pouvoir vous voir demain, samedi, en deuxième partie de soirée sur France 2, dans la pièce « Deux hommes nus », de et avec Sébastien Thierry et Isabelle Gélinas. C'est dans le cadre des nouvelles soirées de théâtre dont Europe 1 est partenaire et on s'en félicite. Alors, habituellement, le théâtre à la télé, on y va un petit peu à reculons, on va le dire, mais là, c'est presque filmé pour la télé, je vous le dis, c'est d'une efficacité redoutable. On rit beaucoup, beaucoup. J'ai vu la pièce hier sur une plateforme vidéo. Il y a une mise en garde en rouge, il y a marqué « adulte ». Mais ce n'est pas une pièce pour adultes. C'est tout public, cette pièce.
Ah oui, non, c'est tout public. Bon, mais c'est tard le soir aussi, hein, faut dire ce qu'il y a. C'est un citat.
Ouais.
Non, c'est parce qu'il y a...
Il y a un peu d'anatomie. Il y a des fesses.
Oui, on voit les fesses de Sébastien Thierry. C'est assez rare au théâtre, mais c'est pas plus que ça. On voit pas autre chose que les fesses. Donc, il y a peut-être des connotations sexuelles.
Non, mais moi, je vous le dis, j'ai vu la pièce, c'est tout public. C'est vraiment tout public. C'était juste que ça m'amusait. Mise en scène très moderne, avec de la musique pendant les scènes. Je connaissais ça que dans le théâtre expérimental. Il y a des projections sur l'écran. Alors déjà, mesdames, messieurs, ne manquez pas le début, parce que la pièce ne démarre pas comme une pièce normale, avec le traditionnel rideau qui s'ouvre et les gens qui toussent comme dans au théâtre ce soir. Les décors sont de Roger Hart. Et le point de départ, ça vous rappelle des choses, le point de départ est excellent. Racontez le point de départ. Tout commence chez vous, dans votre salon. Vous réveillez à poil dans votre lit.
Voilà, à poil dans mon lit. Mais à côté de moi, il y a un homme, d'où le titre de la pièce, « Deux hommes tout nus ». Et il se trouve, comme on est dans le noir, je ne sais pas qui c'est, etc. Je vais chercher ma carabine et là, hop, surprise, je retrouve, parce que je suis avocat, dans la pièce et je me retrouve avec un de mes collaborateurs et quelle n'est pas ma surprise, etc. Et pendant 10 bonnes minutes, on se demande ce qu'on fait tout nu dans mon lit, dans le salon, etc. Et évidemment, au moment où on comprend au fur et à mesure des choses, ma femme arrive.
Ah oui, alors là, vous...
Et, moi, je suis enrobé dans un drap, heureusement, je ne suis pas tout nu. Et par contre, elle trouve mon collaborateur tout nu.
Alors, attendez, parce que je voudrais passer un extrait. Vous êtes tous les deux tout nus, vous essayez de rassurer votre épouse en inventant une histoire de micro-espion complètement dingue, mais elle a du mal à vous croire.
Je ne comprends rien de ce que vous me dites. Hein.
Bon, sois un petit peu clair toi aussi, hein, Catherine. Si tu poses des questions, il faut qu'on les comprenne. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir exactement?
Ce que vous faites tous les deux nus dans mon salon.
Ben voilà, ça c'est une question claire. Quoi? J'ai quand même le droit de ramener du travail à la maison, hein.
Alors, beaucoup de rire, ça pourrait s'arrêter là, vous rhabiller, sauf que votre femme trouve au pied du lit un préservatif usagé.
Oui, alors d'où le gros problème, effectivement, et évidemment, comment penser autre chose qu'un acte sexuel?
Mais oui.
Et pourtant, je vais nier parce que je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne le saurais jamais. Et il se trouve que avec le théâtre de Sébastien Thierry, on est en général toujours dans la même scène qui est revécue 3 fois. C'est-à-dire qu'il y a 3 actes, et les 3 actes, la même scène est rejouée de façon différente, évidemment, avec des enjeux différents.
Évidemment. Mais il y a aussi...
On se retrouve tous les deux dans le lit.
Il y a une sorte de non-dit dans la pièce, c'est que vous êtes terrifié à l'idée de passer pour un homosexuel aux yeux de votre femme. Je précise que c'est absolument pas une pièce homophobe. Alors je vais pas tout raconter, juste dire que vous inventez une maîtresse, ou plutôt, vous demandez François Berléand, une call girl, de jouer le rôle de votre maîtresse, et vous arrangez pour vous faire surprendre chez vous, au lit, avec elle, au moment où votre femme arrive.
Voilà. Pourquoi tu la ramènes ici? Qu'est-ce qu'elle fait chez moi?
Elle fait l'amour, là. On a fait l'amour, ça, ma maîtresse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre?
Mais pourquoi ici? Pourquoi sous mon nez?
Mais par honnêteté, par respect pour toi, là. Quand je t'ai avoué ma relation avec Dominique, tu sais que j'ai une maîtresse, elle sait que j'ai une femme, pourquoi se cacher alors que tout le monde est au courant? Bah, je trouve ça ridicule d'aller s'enfermer dans une chambre d'hôtel, ça coûte une fortune en plus.
J'ai retrouvé un article de l'époque du Figaro du 18 septembre 2014, parce que c'est une pièce qui a 6 ans. Écoutez ça. Oui. François Berléand écrit le Figaro, est époustouflant. Parfois, ils ont la dent dure. Hein. François Berléand est époustouflant. Il rend sensible les nuances les plus contradictoires du personnage et du propos de l'auteur. Il fait de Kramer un bouffon et un personnage tragique. Il est irrésistible de cocasserie et bouleversant. Vous aviez lu cet article. Question subsidiaire, vous aviez payé le journaliste pour écrire ça?
Non, mais à vrai dire, je sais pas si je m'en souviens pas.
Oh, non, ça fait plein.
On se souvient. Non, je vous jure, on se souvient que des mauvaises critiques.
Ah, c'est vrai.
Des bonnes.
C'est vrai.
On se souvient que
des critiques méchantes. Merci beaucoup, voilà. François Berléand. Je le rappelle, ce sera demain samedi en deuxième partie de soirée sur France 2, la pièce Deux hommes tout nus, de et avec Sébastien Thierry et Isabelle Gélinas. C'est dans le cadre des soirées théâtre nouvelles de France 2, dont Europe 1 est partenaire. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
Philippe. Culture Média qui continue dans un instant, notre premier indispensable du jour avec Nicolas Carreau. Il va promener son regard acéré dans des bibliothèques de personnalités confinées. A tout de suite.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est le moment du premier indispensable du jour avec Nicolas Carreau, notre monsieur livre. Bonjour Nicolas.
Bonjour Philippe.
Nicolas, ce matin, vous nous proposez quelque chose de savoureux, une exploration des bibliothèques chez les politiques, les spécialistes et les vedettes.
Mais faut dire aux auditeurs que c'est vous, Philippe, qui m'avez chargé de cette mission.
Mais oui.
Fouiner dans les intérieurs de ceux qui se connectent à la télé ou sur le web par Skype ou Zoom, qui se filment face caméra.
Et qui très très souvent se placent en majesté devant leur bibliothèque. Et d'ailleurs, la sénatrice Marie-Pierre de la Gontrie a tweeté avec ironie « Cherche arrière-plan virtuel de bibliothèque pour faire intelligente et cultivée lors de mes prochains calls, j'ai adoré ».
Voilà, et vous m'inondez de textos depuis 2 semaines avec une photo quand vous en repérez une.
Ouais.
Mais c'est assez logique qu'ils se placent devant leur bibliothèque. Une bibliothèque, c'est pas seulement un réservoir à livres, c'est aussi un signe social, une démonstration sociale, ça vaut pour tout le monde. On met dans son salon les livres qu'on veut montrer, et c'est aussi une décoration. C'est beau une bibliothèque, faut pas l'oublier.
Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la bibliothèque de ceux qui la montrent volontairement à la télé?
Alors, on ne peut pas toujours zoomer pour regarder les titres, mais chez Elise Moon, par exemple, j'ai constaté qu'il était très maniaque du rangement. Derrière lui, on voit 2 étagères rangées à la perfection avec des pléiades et des livres anciens très chics. Ce sont en général d'ailleurs les livres les plus beaux et donc ceux que l'on met le plus en valeur.
Ouais.
Mais j'ai rarement vu des livres aussi bien alignés.
Non.
Il n'y en a pas un qui dépasse.
Attends.
À mon avis, ils sont rangés par ordre alphabétique.
Attends, dites pas ça, vous laissez penser qu'il les lit jamais et qu'ils sont d'abord rangés.
Pas du tout, pas du tout. Mais en tout cas, il les range très bien.
Ouais.
Chez Bernard Pivot, ça vous étonnera pas, il n'y a pas une bibliothèque mais une montagne de livres derrière lui. On suppose même que les livres font le tour de la pièce. Il se trouve que je me suis déjà rendu chez lui pour une interview et je vous le confirme. Alors à l'intérieur, on trouve notamment des livres d'art, un gros volume sur Picasso par exemple, il y a un livre sur Egon Schiele aussi, le peintre autrichien,
ouais.
Ou Max Ernst. Les livres d'art, c'est comme les Pléiades, on les place devant aussi. Parfois, ils sont sur la table basse, d'ailleurs on appelle ça des coffee table books. J'ai repéré aussi, toujours chez Bernard Pivot, une belle collection des livres des éditions des Saint-Pères.
Des manuscrits, c'est ça?
Exactement, on en a parlé parfois dans l'émission.
Mmh.
Ce sont des coffrets superbes qui renferment des facsimilés, des copies parfaites des manuscrits, des grands romans. Alors d'après ce que je vois, mais je peux pas zoomer, je reconnais quand même à la couleur le manuscrit de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, et Alcool d'Apollinaire. Et puis sur tout un côté de la bibliothèque, il y a 15aine de livres de la collection Bouquins chez Robert Laffont. Vous savez, ce sont ces gros volumes qui renferment,
ouais,
plusieurs romans, parfois les œuvres complètes de tel ou tel écrivain.
Ouais, collection, si je me souviens bien, lancée par le regretté Guy Scholler. Chez Pivot, c'est effectivement logique qu'il y ait beaucoup de livres.
Bien entendu, logique aussi chez François Bunel, magnifique bibliothèque, il se filme pour la grande librairie qu'il présente de chez lui et pour la petite librairie aussi, des pastilles courtes pour parler d'un roman.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien le mieux possible par cette période de confinement. La grande librairie est donc de retour, vous le voyez dans un mode confiné, alors je vais pas vous mentir, je suis chez moi et pas en plateau, mais grâce aux techniques modernes, eh bien nous allons dans un instant vous proposer de l'évasion.
Voilà, c'était le début de la grande librairie. Bunel, c'est mon maître. Et alors, sa bibliothèque, je ne l'avais jamais vue, mais ça vaut le coup. C'est plutôt une librairie ou une bibliothèque municipale. Il y a plusieurs pièces. Ouais. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est l'échelle pour aller chercher les livres en hauteur. Et donc, sans surprise non plus, des romans, quasiment que des romans, partout. On voit plus les murs. Beaucoup de livres aussi chez un docteur, Patrick Peloux. Il se filme aussi devant un mur de livres, et pas des manuels de médecine, plutôt de l'histoire. En fait, je le sais parce que j'ai visité aussi la bibliothèque de Patrick Peloux en vrai pour mon émission. Ce sont ses livres de travail. Patrick Peloux publie régulièrement et avec succès des livres d'histoire. Il a donc besoin de ces livres-là pour travailler.
Et chez les politiques ?
Ah bah évidemment, alors là les livres sont en général soit des livres politiques, soit des livres d'étudiants à l'ENA ou à Sciences Po, faut que ça fasse très sérieux. Chez Marine Le Pen par exemple, il y a un gros livre sur la mondialisation, des pamphlets, bleu, blanc, rose aussi, un livre sur les femmes en politique, une biographie de Catherine II et des livres anciens aussi, mais j'arrive pas à voir le titre. Enfin, en tout cas, c'est une belle édition 19e, très très chic. En parlant de livres anciens, il y a de vieilles collections aussi chez Alain Finkielkraut. Alors lui, c'est pareil, un mur de livres derrière lui, filmé en plan large, et la bibliothèque est très très fournie. De vieilles éditions avec la tranche dans un état très limite, signe que ces livres ont été beaucoup lus. Et alors, si jamais vous avez une vidéo à faire pour une réunion Zoom ou une interview, mais que vous n'avez pas de bibliothèque, j'ai vu qu'on pouvait acheter des tapisseries qui reproduisent des bibliothèques. Et alors là, ce ne sont que des livres de collection, des pièces rares, rangées à la perfection.
Ouais, mais si on a tous la même, on se fait toper, c'est ridicule. En tout cas, merci pour l'astuce, Nicolas.
Il y a plusieurs motifs.
Ah, il y a plusieurs, mais ils sont tellement malins. Dans un instant, notre second indispensable du jour avec Laurent Mariotte. À vos tabliers, on va cuisiner, ou même pas du tout.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Le dernier indispensable du jour qui donne envie de faire miam. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour tout le monde.
On entend du boucan dans votre cuisine, on vous retrouve tous les samedis, donc demain dans la table des bons vivants de 11h à 12h30 sur Europe 1. Vous n'aviez pas rangé avant qu'on arrive, mais on s'en fout, on n'est pas filmé.
Si, mais vous voulez que je vous dise la vérité, j'ai mon pot de muguet qui vient de tomber sur mon ordinateur, pour vous dire la vérité, voilà.
C'est vrai, il y avait de l'eau dans le pot de muguet.
Non, mais il y avait des petits cailloux qui viennent de me péter l'écran, si vous voulez tout savoir.
Allez, au revoir le Macintosh à 2000 €. C'est la fête du travail en cuisine, plus que 40 jours que les Français cuisinent beaucoup. Et vous vous êtes dit aujourd'hui, on va faire l'économie de gestes avec des recettes très très simples, très bonne idée.
Exactement Philippe, c'est férié, on fait rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. On fait rien en cuisine. Non mais c'est vrai que beaucoup de gens cuisinent beaucoup d'ailleurs en ce moment. On cuisine vraiment deux fois par jour puisqu'on est confiné et qu'il faut bien nourrir la famille ou se nourrir soi-même. Donc on va faire des recettes simples et comme vous le dites, c'est la recherche d'économie de gestes qui nous intéresse parce que on le sait, le nombre d'étapes peut décourager certains novices. Donc on va faire ultra simple.
En entrée, on ouvre des boîtes.
Ah, non, quand même pas. Non. On cuisine des produits frais. Des produits frais, des produits de saison. Champignons de Paris, ça coûte pas cher. Et on va faire un carpaccio. Vous le taillez très finement à la mandoline ou avec un couteau bien aiguisé.
Ouais.
Et pour l'assaisonnement, tout simplement, huile d'olive, jus de citron, les épices que vous avez à la maison, des baies roses, du poivre, ce que vous voulez. Et vous pouvez même intercaler entre des petites tranches de champignons, des feuilles de cresson ou de fans de radis si vous en avez. C'est ultra simple, ça.
Dans vos Laurent, il y a des gens qui savent pas ce que c'est. C'est quoi une mandoline?
La mandoline, c'est une râpe qui permet de tailler très finement. On appelle ça aussi la râpe japonaise. On en trouve des individuels qui ne sont pas les mandolines de compétition avec plusieurs grilles, mais on appelle ça une râpe japonaise. Ça permet d'avoir un taillage très fin et très régulier, en fait.
Le plat, maintenant.
Alors là, hyper simple, un bon poulet rôti en cocotte. Pas au four, parce qu'au four, faut l'arroser, faut être sur le coup. Donc là, on va vraiment faire là aussi une économie de gestes. C'est un poulet rôti que fait ma mère, pour vous dire la vérité. Elle le fait revenir, un bon poulet fermier. Hein. Là, les circuits courts reviennent en force, donc nos auditeurs peuvent trouver autour de chez eux un bon poulet fermier bien élevé. On le fait revenir dans de l'huile de tournesol à la cocotte. Quelques oignons émincés, un verre d'eau, des branches de romarin qu'on met par-dessus, on l'étouffe si on en a, sinon on met de l'estragon, sinon on met rien, c'est pas grave. Et 1h30 de cuisson à feu doux. C'est ultra simple.
À la cocotte.
Et là, on aura en plus une viande qui va être toute moelleuse et fondante, on pourra presque le manger à la cuillère.
C'est meilleur qu'au four ? Enfin, vous le préférez à la cocotte?
C'est pas meilleur, c'est autre chose. C'est une cuisson à l'étouffée. On n'aura pas la coloration du four, on n'aura pas le croustillant de la peau, mais on aura quelque chose de très moelleux, de très fondant, quoi.
Et le dessert, alors?
Alors, le dessert, bah ouais, il y avait une pub pour les fraises juste avant notre indispensable, Philippe. On va faire un dessert très simple, des fraises coupées en morceaux, écrasées avec une belle crème double épaisse et du sucre. Parce que les premières fraises, elles manquent toujours un petit peu de sucre.
Ouais.
Il y a la Garriguette, mais il y a la Cléry qui est une très bonne fraise aussi. On l'écrase comme ça. Crème, fraise, sucre, c'est un mariage magnifique. On peut faire autrement aussi, on peut faire juste une petite goutte de vinaigre balsamique avec les fraises.
D'accord.
C'est un très bel accord, ça. Fraise balsamique.
Allez-y.
Dites-moi.
Non, allez-y, j'allais vous parler. Vous aviez fini ou pas? J'avais peur de vous interrompre. Je voulais savoir.
Non, j'en ai encore une dernière allez-y, pour la route, allez-y, si vous voulez.
Allez-y.
On peut faire chabrot avec les fraises. Vous savez ce que c'est que faire chabrot?
Oui, c'est quand on mélange avec du vin, non?
Oui, exactement, avec la soupe. Eh ben, votre salade de fraises, des fraises coupées en morceaux simplement avec un peu de sucre, vous mettez le reste de votre vin rouge dedans.
Ouais.
Et je vous assure que c'est délicieux, là. Le vin rouge et la fraise, c'est un très bel accord aussi.
Voilà.
Oui, c'est pas compliqué. C'est des desserts de feignants, ça, aujourd'hui.
Ouais, je vois très, très bien. J'imagine que vous avez testé juste avant qu'on prennent l'antenne en direct et maintenant, je ne m'étonne pas pour le sort de votre ordinateur qui s'est pris le pot de muguet sur la tronche. Restons à la maison et cuisinons. C'est les recettes de Laurent Mariotte. On les retrouve sur votre site laurentmariotte.com et vous serez samedi à 11h sur Europe 1. Merci à tous, c'est terminé
pour
merci.
Nous.
Bon week-end Laurent. Lundi 9h30 pour Culture Média, nous serons avec le journaliste reporter Martin Veil pour son documentaire Covid-19, la fin de l'American Dream sur TMC et puis la réalisatrice d'origine iranienne Marjane Satrapi pour la sortie en VOD de son dernier film Radio. C'est le fameux biopic sur Marie Curie. Maintenant, c'est Andrew Manoff et sa bande pour Ça fait du bien. Mais d'abord, le flash. Europe 1, 11h.